Bienvenue, vous entrez dans La Zone, le podcast qui part à la rencontre de femmes créatives et inspirantes. Une semaine sur deux, une artiste, une entrepreneuse, une actrice de changement se raconte. On parle de son parcours, de ce qui l'anime, de sa zone de génie. On parle de son rapport à elle-même, au monde et aux autres. Aujourd'hui à mon micro, Sandy Lou.
Tellement de choses qui viennent nous empêcher de nous réaligner. Des fois, ça prend des moments de choc pour se réveiller aussi. Moi, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Mais là, je suis réveillée.
Voilà, on y est. Après une pause volontaire, involontaire, qui devait durer 2 semaines et qui s'est prolongée tout l'été, me revoilà, avec le dernier épisode de La Zone. Oui, oui, le tout dernier. J'ai longtemps hésité, ce qui explique en partie mon silence. Mais c'est en réécoutant ma conversation avec Sandy Lou que j'en suis devenue certaine. C'est la fin de La Zone. Parfois, c'est la création qui nous donne l'élan de prendre un nouveau tournant dans notre vie. Ça a été le cas pour moi. Et parfois, ce sont les mots de la vie qui donnent l'élan à notre créativité. Ça a été le cas pour Sandy. Et de temps à autre, les deux s'entrechoquent dans un espèce de flou artistique duquel peut sortir quelque chose d'un peu inespéré et magique. Vous allez l'entendre, elle a vécu pas mal de trucs, Sandy. Mais l'art, et surtout les artistes, ont toujours été son fil d'Ariane, son élan, sa joie. J'ai toujours secrètement envié les gens qui ont hâte d'être au lundi matin. Sandy Lou fait partie de ces gens-là. Ceux qui ressentent chaque dimanche soir ce truc un peu euphorisant qui les empêche presque de dormir. Une excitation quasi incontrôlée qui fait naître 1000 idées à la minute. C'est cette frénésie que je cherche dans chaque nouvelle chose que je crée. Ces mêmes papillons dans le ventre qui m'ont accompagnée durant ces 2 saisons de La Zone. Ce podcast, c'est une partie de moi que je vous ai partagée au fur et à mesure des épisodes. Et je pense que ça y est. Je suis arrivée au bout de ce que je souhaitais en faire. Des voix et des parcours rangés quelque part dans la mémoire d'Internet. Un petit cadeau digital et intemporel, du moins je l'espère. Donc, c'est la fin. La fin de cette aventure un peu dingue qui a commencé avec un essai et qui m'ont fait rencontrer des personnes incroyables. Tant parmi mes invités que parmi vous. Une aventure un peu dingue qui a fait naître des amitiés, suscité plein de nouvelles idées, sur lesquelles j'ai d'ailleurs hâte de me pencher, j'avoue. Parce que la frénésie et les papillons m'appellent ailleurs, et que, dans toute cette profusion de créativité, eh bien je n'ai pas fini de me perdre, et pas fini de me retrouver. On se reverra, c'est sûr. Du moins, vous réentendrez ma voix, bientôt, promis. En attendant, je vous laisse à ma conversation avec Sandy. On a parlé d'art, comment le choisir, le rendre accessible et même universel. On a parlé de ceux qui font l'art, comment assumer son statut d'artiste, être visible, pouvoir en vivre. Et puis, on a parlé de Sandy, de sa persévérance et, une fois n'est pas coutume, de sa zone de génie. Sandy Lou, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Bienvenue dans La Zone. Sandy Lou, tu as beaucoup, beaucoup de casquettes. Tu as fait et tu fais toujours énormément de choses, mais pour te présenter dans le cadre du podcast, je dirais que tu es notamment artiste visuelle, danseuse-interprète pour une compagnie de danse haïtienne contemporaine. Est-ce que c'est hors danse qu'on dit?
Oré danse.
Donc Oré danse, une compagnie de danse haïtienne contemporaine, entrepreneur social. D'ailleurs, tu es la présidente et fondatrice de Weekend, un organisme qui accompagne les communautés afro-descendantes dans leurs projets entrepreneuriales artistiques. Donc non seulement vous les accompagnez par du coaching ou de la gestion de projet, mais vous les aidez aussi à se développer et se professionnaliser dans leur art. Et vous avez aussi un volet où vous initiez nos communautés afrodescendantes à l'art, par exemple avec des séances de peinture collective en live et des ateliers aussi en milieu scolaire.
Voilà.
En parallèle de tout ça, tu as eu une carrière plus traditionnelle, on va dire, parce que tu as un MBA et tu es en train aussi de compléter un doctorat en communication. Tu as travaillé de nombreuses années comme directrice de compte pour une des principales banques du Canada. Et donc, vu ce parcours assez diversifié et riche, je me demandais si tu penses que l'art en tant que tel, c'était quelque chose qui t'était prédestiné dans le sens où est-ce que c'est déjà une joie qui t'animait lorsque t'étais enfant ? Et je pose la question parce que hier, je me faisais la réflexion que quand on est enfant, on nous écoute pas beaucoup. Mais nous, on sait spontanément aller vers ce qu'on aime faire sans vraiment trop y réfléchir. Et donc, je me demandais, est-ce que l'art a toujours fait partie de ta vie ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir la vie dont tu rêvais justement lorsque tu étais enfant ?
Oui, c'est une bonne question. Et en gros, l'art a fait partie de ma vie. Depuis que je suis toute petite, je fais de la danse. J'ai fait un peu de patinage artistique, j'ai fait de la natation, mais la danse, ça a collé, vraiment. En tant que faire du ballet jazz, j'ai fait de la salsa, de la compétition de salsa, du hip-hop. J'ai même fait de la gigue irlandaise, river dance, touché un petit peu à tout. Pour finalement vraiment retourner à mes racines, qui est la danse haïtienne contemporaine. Je suis née ici, alors c'est une façon pour moi de me reconnecter, de me connecter avec mes racines. Donc, la danse a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours fait de l'art. Quand j'étais jeune, je dessinais beaucoup. Puis aussi, au fil des années, j'ai toujours pris des cours de peinture, au moins une fois par année. Je me donnais cette discipline de prendre un cours par année. Et j'ai aussi fait un deck en infographie. Alors, à l'époque, et donc l'art a toujours été présent. Mmh. Je suis rentrée vraiment plus tard dans un parcours académique. Au début, j'étais toujours dans le domaine des arts. Mes emplois étaient liés à l'art, soit à la danse. Je travaillais aussi dans un économusée où est-ce qu'il y avait des artisans qui faisaient du verre moulé par des artisans à la main et tout. Mais j'ai eu un moment où est-ce que j'avais envie de retourner à l'école. Puis je rêvais d'avoir un baccalauréat. Et puis
n'importe lequel?
Non, ben j'ai fait un processus de recherche avec des conseillers pour voir qu'est-ce qui collerait mieux à ma personnalité.
Mmh. Et, comme des conseillers d'orientation, par exemple?
Exactement. Puis ça disait en administration, en gestion des ressources humaines. Et ouais. C'est ça. Fait qu'en 2005, j'ai entamé un parcours pour faire mon bac. Je l'ai complété en 13 ans. J'aime bien dire 13 ans quand je parle devant quand je fais des conférences, des ateliers, parce que des fois on veut retourner à l'école, on se dit oh, ça va être trop long, 3-4 ans, 5 ans, ça va être trop long, mais quand j'ai 13 ans
parce que pour les personnes outre-Atlantique qui nous écoutent, un baccalauréat c'est l'équivalent d'une licence à l'université.
Exact.
Et donc traditionnellement, on le fait en 3 ans ou 4 ans. Et donc toi tu l'as fait en 13 ans.
13 ans, un cours à la fois.
Wow.
J'ai eu mes deux enfants entre-temps. Le premier enfant, j'ai arrêté un petit peu, j'ai eu le temps de m'installer en tant que maman.
De prendre ton souffle.
Exactement. Mais la deuxième, dès que j'ai eu ma deuxième, je pense que j'ai fait 5 cours. Bon, j'arrivais à bien gérer mon temps. Et puis, j'ai combiné avec des cours à distance aussi, ce qui me permettait beaucoup plus de flexibilité. Et mes déplacements étaient plus faciles. Alors, c'est ça, après 13 ans. Puis, après ça, j'ai voulu faire ma maîtrise. J'avais ce rêve-là de faire ma maîtrise. Je l'ai faite en 23 mois. Ma fille faisait pas ses nuits. Je sais même pas. Je pense que j'étais dans un état second quand j'ai complété ça.
Tu as dissocié, en fait.
Exactement. Je l'ai faite en 23 mois. Je suis très contente de l'avoir fait. Et j'avais un rêve d'aller plus loin,
faire le doctorat. Puis c'est là que, suite à des problèmes de santé, j'ai découvert que j'avais une tumeur durant la pandémie et une batterie de tests. Je devais faire des prises de sang à la semaine, aux trois jours, excuse-moi, deux fois par semaine, courir chez le médecin presque toutes les semaines pour essayer de détecter, de voir qu'est-ce que j'ai. Puis je devais prendre une batterie de pilules pour rester dans un niveau stable pour pas que affecter gravement ma santé. Et ça m'a remis un peu mes objectifs en perspective, voir qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie, qu'est-ce qui me rend heureuse.
Alors attends, parce que là, tu vas trop vite pour moi.
Ouais.
Et j'ai eu plein de questions en t'écoutant parler.
C'est correct.
D'abord, si t'as fait ton bac en 13 ans, tes envies, tes objectifs ont jamais fluctué. Comment ça se fait que tu t'es pas découragée ou du moins que t'as pas changé de voie?
C'est drôle, mais je me sentais vraiment à ma place dans ce volet-là. Tu sais, tout le volet organisation du travail, contact humain, comment amener des gens du point A au point B dans leurs objectifs. C'est là le volet gestion des ressources humaines, donc ce contact avec, que ce soit avec des employés ou des collègues. Parallèlement, je travaillais dans une institution financière où est-ce que j'avais des postes justement où j'étais amenée à travailler avec des équipes, soit gérer des équipes ou travailler en équipe. Fait que je pouvais directement appliquer mes notions sur le terrain. Mais j'avais toujours cette petite fibre artistique que j'amenais dans un milieu corporatif.
Bah c'est ça que je me demandais justement. Est-ce que t'avais dû mettre de côté entièrement tout ton profil artistique ou est-ce que t'as continué à l'exercer en même temps que ça?
Ça a toujours été comme deux vies parallèles. Ouais. Vraiment. Deux vies parallèles. Je finissais de travailler. Après ça, le vendredi, j'allais à la danse. Et le samedi matin, j'allais à la danse. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie, l'art, mais c'était toujours comme un passe-temps.
Ouais.
Quelque chose à côté. Et jusqu'à temps que je me rende au doctorat. Et là, j'ai décidé de combiner les deux. Donc, ma passion pour la gestion et ma passion pour les arts. Et c'est ce qui fait le sujet de mon doctorat.
Ah, c'est quoi le sujet de ton doctorat?
C'est, j'aime ça dire le titre parce qu'il est long, mais c'est pertinent.
C'est toujours long, hein?
Oui, je sais, c'est long.
Un titre de doctorat.
C'est comme tout le temps, là, un truc. C'est l'art comme vecteur de communication dans des contextes de diversité ethnoculturelle et intergénérationnelle dans les organisations.
Ben c'est un peu week-end, en fait,
clairement.
L'organisme.
C'est, ce qui est drôle, c'est que, à travers mon doctorat, je décide d'amener l'art dans le monde de la gestion, qui est toujours un peu plus rigide, mais avec les enjeux d'aujourd'hui, des organisations qui deviennent de plus en plus complexes, les différentes firmes de consultation cherchent des moyens très, comme vraiment, pas original, mais comme différentes d'aborder des problématiques d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les équipes sont diversifiées au niveau des générations, genre, race, tout ce qui englobe le paysage d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes pratiques qu'on a toujours fait dans le passé? Des fois, qui sont un peu désuètes. Mais moi, ce que je propose, c'est pas la solution, mais une avenue qui est l'utilisation de l'art à travers des activités collectives. Donc, que ce soit de la peinture collective, que ce soit des réflexions collectives, mais toujours dans un contexte artistique, et voir comment je peux améliorer la cohésion des équipes, le mieux vivre ensemble dans les organisations.
Finalement, j'ai l'impression que t'as pas eu, finalement, à choisir entre un métier plus traditionnel, rentrer dans les cases, tu sais, du salariat, etc., et la vie d'artiste, je mets des guillemets bien sûr, dans la vie d'artiste et tout ce que ça inclut. Alors que souvent, quand je parle à des personnes qui sont portées, enfin qui voient un petit peu l'art comme un hobby, comme par exemple la danse. Moi aussi, j'ai fait très petite, j'ai commencé la danse, puis j'en ai fait pendant longtemps, puis j'ai voulu être chorégraphe, puis directrice artistique, etc. Au final, aujourd'hui, je suis avocate, rien à voir, mais je fais le podcast à côté d'ailleurs. Aussi comme une passion et un hobby. Et, mais toi, j'ai l'impression que tu as été portée par autre chose dans le sens où tu n'as jamais eu à faire de concessions finalement. Ben, tu n'as jamais dû vraiment délaisser quelque chose que tu aimais vraiment, te résigner en fait.
Oui, oui. Mais tu vois, avec le temps, j'avais l'impression que je m'en allais vers là. Et c'est là, je pense qu'avec ma situation médicale, ça m'a comme un peu secouée pour me réveiller, pour me dire, attention, là, tu t'en vas dans une direction qui est en dehors de toi, mais qui est plus toi. Mmh. Alors, souvent, comme tu mentionnais, tu sais, on veut rentrer dans la case, on veut le salaire, le 9 à 5 comme on fait, on veut salaire stable, on veut les avantages sociaux, on veut pas avoir à réfléchir à quel salaire qui va rentrer demain. Mmh. Alors, c'est facile de rentrer dans ce moule-là. Et parce qu'en dehors de ça, on peut vivre certaines anxiétés, certains malaises, et ça nous sort complètement de notre zone de confort. Alors c'est toute une décision, mais pour moi c'était important de voir comment on peut trouver des stratégies pour rendre l'art comme tout autre métier. Souvent avec on revient à l'époque. À l'époque, l'art était vraiment mis en avant-plan. Les artistes étaient mis en avant-plan. C'est eux qui venaient, ils étaient à la cour,
les cours du roi.
Les cours du roi. Mmh. Ils venaient peindre, faire des sculptures. Ils étaient vraiment mis en avant-plan. Avec le temps, avec le capitalisme, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, l'art est comme mis de côté. C'est comme un métier qui est moins sérieux ou moins valide.
Mmh. Et légitime, en fait, à part
légitime,
pour
exactement.
Une petite quantité qui va être les Beyoncé, les Michael Jackson.
Oui, exactement.
Les
grands qui vont percer. Mmh. Mais c'est valorisé d'être dans des métiers beaucoup plus classiques.
C'est
mais
ça.
Là, avec le temps, les métiers classiques commencent à devenir de moins en moins, surtout après la pandémie, on voit qu'il y a des métiers qui commencent à disparaître.
Oui.
Et moi, je me suis dit, ayant mes compétences en gestion et mes habiletés ou ma passion en art, comment je peux combiner les deux? Parce que l'art peut être géré comme toute autre entreprise, toute autre business. Et c'est juste d'appliquer les mêmes paramètres, mais dans un contexte artistique. Comment tu veux atteindre un objectif? Tu aimerais faire ton expo, tu aimerais vendre des œuvres, mais c'est les mêmes paramètres que quand tu veux une business, puis tu vends des services de consultation ou que tu vends un produit. C'est le même processus.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment déconstruire un peu les schémas mentaux qu'on s'est fait là,
ouais.
Sur qu'est-ce que la vie d'artiste.
Mais est-ce que ce serait pas aussi faire rentrer justement l'artiste dans en fait le faire se conformer finalement à notre société capitaliste, comme s'il avait pas vraiment le choix. S'il a envie de pouvoir en vivre, il est obligé de rentrer dans le système, alors que justement avant l'artiste avait toujours eu à l'époque un statut assez particulier.
C'est une très bonne question. Il y a une partie que je répondrais oui. Il y a une partie de conformisme parce que malheureusement on vit dans un pays capitaliste. Où est-ce qu'on est au Québec ici au Canada? On est dans ce contexte-là. Fait qu'il y a une partie qui nous doit de s'adapter un peu dans ce contexte-là. Mais je pense qu'il y a quand même un espace pour une certaine liberté d'expression, une liberté d'être. Mais c'est de trouver cet équilibre-là. Puis je pense que c'est là la zone où est-ce qu'on doit travailler.
Tu parlais de ta condition médicale, de la tumeur qu'on t'a diagnostiquée pendant la pandémie. Comment tu réagis? Comment est-ce que tu l'apprends d'abord? Puis comment tu réagis? Qu'est-ce qui se passe aussi à ce moment-là dans ta vie, on va dire, familiale et professionnelle? Comment, en fait, le diagnostic a changé complètement tes perspectives?
C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui est toujours occupé, qui a toujours un million de choses à faire. Ça m'a ralenti beaucoup, même si je rigolais parce que des gens qui sont autour de moi me voyaient même que j'arrivais à faire plus que la moyenne, même en ayant cette tumeur-là. Même des fois, moi, j'oubliais que j'avais ma tumeur. Mais puis là, des jours, j'étais très épuisée. Puis il y a des jours que j'arrivais même pas à me lever parce que ça me causait... un des symptômes, c'est de la fatigue chronique. Alors, même si j'ai une bonne nuit de sommeil et tout, c'est comme si je m'étais entraînée pendant 3 jours, là, puis que je m'étais pas reposée. Puis il y avait d'autres symptômes, des étourdissements, troubles de vision. Il y avait toutes sortes de symptômes, paralysie temporaire des membres et tout. Fait que ça me ralentissait, mais pour moi, mon objectif était plus grand que je me faire arrêter par mon corps, ce que je vivais. Je prenais soin de moi quand même.
De quelle manière?
Quand mon corps me disait non, j'écoutais. Je peux pas me lever, je me levais pas. Même j'avais, s'il y avait des obligations, de toute façon, tout le monde était au courant autour de moi avec qui je devais travailler ou quoi que ce soit, de près ou de loin, était au courant de ma situation, puis était conscient qu'il y a des moments que je pouvais, que j'allais pas être réceptive physiquement et pouvoir honorer certaines obligations. Alors, c'est ça. Fait que quand mon corps me disait non, j'écoutais. Des fois, c'est d'aller plus lentement. J'aime bien l'expression « hurry slowly », aller vite, lentement. d'aller lentement, mais on peut quand même avancer des choses, même si on doit ralentir et continuer à avancer. Même si on avance à pas de fourmi, on arrive quand même à avancer un petit peu. C'était un peu ça, la façon que je voulais faire. Puis il y avait beaucoup de choses que je voulais accomplir, autant pour moi que pour mon organisme, que pour les artistes. Alors, je me suis dit, je dormirai à ma mort à la fin du parcours.
Comment t'expliques ça? Parce que je me demande si c'est un conflit ou une fracture générationnelle ou que la pandémie a mis en lumière ou du moins a accéléré. Parce que bon, moi, je fais partie de la fin de la génération des millénials, on va dire. Je suis née en 93. Et puis, il y a Gen Z là qui a suivi. Et y a un peu ce clash entre la génération X et la Gen Z, où la génération X dit à la Gen Z qu'elle est lazy, qu'elle est paresseuse, qu'elle a plus envie de travailler, etc. Puis t'as la génération Z qui répond que c'est pas une question de pas vouloir travailler, mais c'est plutôt une question de pouvoir mettre son travail au service de sa vie et non pas l'inverse, puis de aussi pouvoir trouver du sens à son travail. C'est pendant la pandémie, oui, on a réalisé qu'il y a plein de tâches qui pouvaient être faites par l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou alors qu'on pouvait le remplacer, ça pouvait être automatisé. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a plein d'emplois qu'on appelle des bullshit jobs. Et du coup, je me demandais où est-ce que tu te situes là-dedans, parce que quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu as cette urgence à faire et à pas t'arrêter, alors que moi je suis plus en ce moment dans une réflexion de me dire mais pourquoi je travaille autant en fait.
C'est intéressant parce que tu vois, moi, je le vois pas comme... J'ai pas ce désir d'arrêter. Je fais parce que c'est ce qui me drive et ce qui me passionne. Tu vois? Puis c'est là où est-ce que je rejoins la génération Z. Parce que je fais quelque chose qui me fait du bien émotionnellement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Fait que pour moi, c'est pas du travail. Tu vois? Fait que je suis là, je me lève le matin, puis c'est ça, on discutait de ça récemment, cette semaine. Je dis, c'est le fun, je me lève, puis je viens travailler ici, dans un espace créatif, puis j'ai pas envie de rester dans mon lit. J'ai envie de me réveiller. Là, je côtoie des artistes, on travaille sur des beaux projets, ça me nourrit.
Oui.
Fait que je le vois vraiment pas comme ah mon Dieu, faut que j'aille travailler, j'en fais beaucoup. Non, même si c'est plein, pour moi c'est minime.
Donc tu ressens jamais le blues du dimanche soir ou le lundi matin de te dire
plus maintenant. Au contraire, j'avais hâte à lundi.
Plus maintenant, ouais. Ça veut dire que donc tu te sentais comme ça dans ton emploi à la banque.
Ouais.
Okay.
Comme la plupart des gens, le dimanche c'est la pire moment là. C'est la descente ouais, là aux enfers.
Le dimanche à 14h t'es bien, à partir de 18-19h tu te dis oh non.
Ah non, moi j'avais hâte de rentrer lundi. J'ai dit oh mon Dieu, ok, je vais pouvoir travailler sur tel projet, je vais pouvoir avancer mes lectures, je vais pouvoir avancer mon texte. Je vais faire 2 pages aujourd'hui. J'avais cette drive là. Ok, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ok, à ça, il y a une expo cette semaine. Là, j'ai tel autre projet. Je discutais avec tel... C'est ça.
Ouais.
C'est...
Mais qu'est-ce qui t'a fait... tu sais, il y a beaucoup... en fait, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast, mais aussi avec d'autres invités. Généralement, on n'a pas envie de lâcher la sécurité financière, puis le fait d'avoir un salaire qui tombe à tous les mois. Toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire que... qu'en fait, c'était pas grave et que t'allais te lancer à temps plein dans le week-end, dans le fait d'être artiste?
Mais disons que c'est surtout c'est mon côté, tu sais, mon côté cartésien et mon côté artistique. Mon côté cartésien a quand même voulu trouver une façon d'organiser mon salaire, parce que je suis quand même maman, je suis monoparentale à temps partiel, donc j'ai mes enfants une semaine sur deux. Alors j'ai pas un deuxième salaire pour compléter, puis je peux dire à mon mari, bon, j'y vais, je me lance, on se plonge, et puis là je fais faire ma carrière. Non, j'ai pas cette option là fait que ça me demandait quand même un certain planning, mais un de mes rêves, c'est de devenir enseignante, professeure à l'université, pour avoir justement cette liberté de pouvoir transmettre mes connaissances, forger un peu la génération de demain, et d'avoir une table, être sur la table des réflexions en termes de diversité ethnoculturelle.
Tu voudrais être professeur en quoi?
Le pont, vraiment, là je fais mon doctorat en communication, fait que ce pont entre la gestion, la com et les arts, c'est ce qui m'éveille beaucoup. Ouais, parce que souvent beaucoup d'artistes n'ont pas de, surtout afrodescendants, qui est notre spécialisation dans l'organisme, cherchent des moyens, des outils pour que ce soit pour s'organiser, organiser leur carrière. Parce que souvent c'est ça qu'ils veulent. On dit souvent, ah, les artistes sont beaucoup plus, sont beaucoup plus loose, veulent pas s'organiser, ou ils veulent pas d'attache à l'organisation. Mais c'est pas tout le temps vrai. Des fois ils veulent dire, ben j'aimerais ça trouver des moyens. J'ai peut-être pas les compétences en tant qu'artiste, mais j'aimerais trouver des ressources, des gens qui peuvent m'accompagner pour m'aider à atteindre mes objectifs. Fait que vraiment travailler en collaboration avec des gens qui ont les compétences.
Mais qu'est-ce que tu veux dire par s'organiser exactement? C'est-à-dire avoir un business plan, puis avoir le moyen de monétiser son art?
Oui, mais surtout comme par exemple, je veux aller chercher du financement, des bourses. Je sais pas comment commencer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils demandent? Souvent, c'est comme ça demande quasiment un doctorat pour remplir les demandes de bourse. Là, ils demandent 12 000 choses, mais comment, par où je commence? Qu'est-ce qui est accessible? Qu'est-ce qui est pas accessible? C'est surtout ça. Souvent les recherches de financement ou bien qu'est-ce qu'un CV artistique? Souvent, un CV régulier, professionnel, n'est pas comme un CV artistique. Il y a toutes sortes de choses dans un contexte spécifiquement artistique qui est demandé par les artistes. Fait que, oui, ils ont ce désir de s'organiser parce qu'ils savent qu'en s'organisant, ça leur permet d'atteindre leurs objectifs personnels.
Le fait d'être mère, tu as mentionné que tu étais mère monoparentale de deux enfants. Je ne sais plus si tu l'as dit en off ou si tu l'as dit quand j'ai appuyé sur enregistrer, mais tes enfants ont quel âge?
9 ans et 16 ans.
Voilà, 9 ans et 16 ans.
Oui.
Dont le plus grand, c'est ça, 16 ans, qui est autiste. Est-ce que ça... Tu n'as jamais eu de doute, justement, après avoir pris la décision de quitter ton emploi, étant donné que tu as deux enfants à charge, dont un qui a des besoins particuliers. Tu n'as jamais regretté ta décision ou douté ou eu peur, en fait, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille?
Non, parce que, tu vois, le... projet que je mène justement présentement qui s'appelle DSA, découvrir la diversité de l'autisme à travers l'art, et inspiré de mon fils, et montrer comment changer un peu les perceptions sur qu'est-ce que c'est une personne autiste. J'ai une collègue au doctorat avec moi qui est autiste. J'ai des professeurs qui sont autistes, montrés comme ils ont pas, ils sont pas plus différents que nous. Il y en a qui ont des besoins particuliers, oui, mais il y en a qui peuvent très bien naviguer dans le monde. Luca, lui, il est autiste, mais souvent c'est invisible. Les gens ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'il est.
Oui, parce que l'autisme, en fait, il y a un spectre. Et en fonction de où est-ce que tu te situes dans le spectre, ça peut être plus ou moins prononcé, on va dire, ou alors ça va être tout simplement différent en fonction de qui tu es, tout simplement.
Oui, c'est ça. Puis justement, avec ce projet-là, ce qu'on veut montrer, puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est en train de déconstruire les termes, souvent d'avoir une approche un peu plus humaine et moins clinique.
OK.
Tu vois, au début, le projet s'appelait TSR, le trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est comme ça, de manière clinique, qu'on l'appelle. Et là, j'ai enlevé le T, je l'ai remplacé par le D, diversité. Puis là, je suis en train d'enlever le S pour le spectre pour comme vraiment maintenir une diversité. Parce que spectre, souvent, ça fait connotation négative.
Ah oui?
C'est comme un spectre, comme dans les histoires de maisons hantées ou de fantômes, les spectres.
Ah oui, je l'avais pas du tout.
Il y a une connotation négative aussi. Puis suite à des conversations avec d'autres mamans qui font partie du projet DSA, on est en train de vraiment, déconstruire le titre en même pas quelques mois pour vraiment la diversité de l'autisme à travers l'art, parce que c'est une diversité. Souvent on parle de troubles, on parle de spectre, on parle de handicap, mais c'est de voir comment on peut parler autrement parce qu'on juste ils sont parmi nous et des fois on va pas nécessairement identifier dire ah ben toi tu es autiste, toi tu l'es pas et tout, ils sont juste ils font juste, on est tous différents.
Oui.
Fait que pour revenir à ta question, vraiment de la décision pour moi était quand même sûr pas évidente par rapport au fait de changer de sortir de sa zone de confort pour sortir du de la structure
traditionnelle
exactement. Mais en même temps, mon rôle en tant que maman, c'est aussi de montrer à mes enfants que de faire un métier qui les passionne. Parce que pendant trop longtemps, que ce soit la génération de mes parents qui sont arrivés ici au pays avec les valises, et puis ils se sont dit, nous, on veut juste avoir une meilleure vie pour nos enfants.
En quelle année ils sont arrivés, tes parents, d'ailleurs?
Ma mère est arrivée en 76. C'est ça. Fait qu'on a, vraiment comme... je suis née en 79. Fait que c'est vraiment toute cette construction-là sociale de nos parents qui nous ont imposé cette façon de voir qu'il faut que tu aies un emploi stable parce qu'on t'a amené ici pour une meilleure vie que ce qu'on a eu. Alors, c'est pour ça qu'on on va vraiment vers les métiers classiques, là. Mmh. Avocat, ingénieur, médecin, infirmière et tout ça. Puis là, quand t'arrives, tu dis, tu vas en art, ouf! Ça passe pas.
Oui, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été ton cas ou alors que t'étais totalement en accord avec ce que tes parents voulaient, étant donné que t'avais ce rêve-là de toute façon de faire un baccalauréat, de faire des études.
Mm-hmm. Mais c'est venu de très tard, tu vois. Je suis retournée aux États en 2005, mais j'avais pas de cégep à l'école. J'avais fini mon secondaire. À l'époque, je rêvais, c'est drôle, parce que je rêvais, quand je rentrais au cégep, je rêvais d'aller en communication. Mais j'osais pas parce que j'avais un bégaiement, j'étais plus forte en anglais qu'en français, mais j'avais comme ce syndrome d'imposteur au niveau de l'écriture. Puis là, je me dis, mais comment je peux faire pour aller parler devant les gens? Puis j'ai la misère à parler en français, j'ai la misère j'ai le bégaiement et tout ça. Fait que ça m'a freinée. Fait que j'ai pas fait ce que je voulais faire à la base. Alors j'ai naviguer jusqu'à temps que je retourne aux études. Ben là, à ce moment-là, j'avais fait une formation en infographie. C'était tout nouveau, tout neuf. Et puis, fait que j'ai fini ça. Puis, je suis rentrée sur le marché du travail, toujours dans le domaine artistique. Et après ça, en 2017, c'était en 98-99. Fait qu'en 2005, c'est là que je suis retournée aux études là, à l'université. Puis surtout en faisant une maîtrise, sans savoir que j'avais une tumeur, je me demandais pourquoi j'avais des problématiques au niveau de la lecture, au niveau de mes apprentissages, parce que ça me fatiguait beaucoup. J'avais beaucoup de fatigue.
Oui.
Fait que j'ai développé beaucoup de moyens pour pouvoir faire la rédaction de mes textes, faire mes travaux et tout ça, mais ça n'a pas été facile.
Ouais, sans savoir en fait que t'étais malade.
Ah oui.
Quoi.
Oui, je pense que c'était la vieillesse. Puis là, j'ai dit, bon, après 40 ans, on m'a dit que tout tombe. Alors, là, j'ai dit, bon, mais finalement, c'était pas ça. Heureusement, mais heureusement, malheureusement. Là.
Le diagnostic, ouais, t'as mis un peu un... Enfin, ça a dû être, paradoxalement, un soulagement de au moins savoir que c'était pas juste la vieillesse, mais que ça avait quelque chose.
Exactement. Puis aussi, cette tumeur-là m'a aussi... amener ma réaligner en même temps aussi. Fait que pour moi, c'est une bonne chose.
De quelle façon ça t'a réaligné?
Mais un peu comme je mentionnais plus tôt, ça m'a permis de savoir ce que j'aime vraiment. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Et non pas qu'est-ce que les autres aimeraient que je fasse. Et non pas focusser sur les projets des autres. Tu sais, des fois, on veut faire des choses, mais disons, on s'incorpore dans un projet pour dire « Ah, tu serais bonne dans tel projet » ou « Viens faire le projet avec moi. » Puis je délaissais mes projets, mes aspirations. Mmh. Alors, ça m'a permis de me réaligner. Qu'est-ce que j'aime? Ben j'aime la transmission. transmettre des connaissances, faire de l'accompagnement, trouver des idées, émerger des idées, toutes des processus d'idéation avec les artistes. Et puis, je me suis rendu compte comment c'était ça qui me passionnait, enseigner, être devant une classe, parler, je sais pas pourquoi, dès que j'ai un micro dans les mains, je me sens à l'aise. Je suis comme, bon, voilà, je commence à parler, puis ça va bien, puis...
J'ai l'impression que tu me décris. En fait, depuis tout à l'heure,
Ah, non, c'est vrai?
Comme moi, en fait. C'est moi vrai? Qui suis comme toi, vu que je suis plus jeune.
Mais, tu vois?
Ouais, c'est fou. J'ai en face de moi quelqu'un qui a réussi à faire ce que moi je m'empêche de faire ou que je fais en tout cas par balbutiement, mais que je m'avoue pas encore.
Ah, je pourrais t'aider. Mais j'ai booké beaucoup de monde à faire ce pont-là. Ouais. C'est quelque chose que j'adore faire. C'est justement d'aider les gens à être 100% eux-mêmes. Tu sais, 100% eux-mêmes, c'est pas facile tout le temps. Hein, au quotidien, on a tellement de choses qui viennent nous empêcher de nous réaligner. Puis des fois, ça prend des moments de choc pour se réveiller aussi. Moi, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Mais là, je suis réveillée.
J'aimerais bien parler plus de week-end parce que c'est...
Oui.
Quand j'ai lu le projet sur Internet, que j'en ai parlé donc, avec Jess... qui fait partie donc du Elder, elle fait partie du programme DSA, non ?
Oui,
c'est ça.
Tout à fait.
Et donc qui est mon amie aussi. Je me suis dit mais c'est fou, c'est exactement ce que je voulais faire, le projet que j'avais avec mon père au Togo dans mon pays natal.
Ah,
en fait, je voulais ouvrir des maisons qu'on appellerait des maisons de la culture. Puis on tournerait à travers le pays. Puis en fait on ferait de l'initiation et de l'éducation aux arts, puis on aiderait aussi les artistes à se développer et à obtenir obtenir le statut qu'ils méritent.
Mm-hmm.
Et donc je me demande comment c'est né Weekend, comment t'as fait, tu sais, pour te structurer et pour devenir l'organisme que c'est aujourd'hui.
Alors ça a commencé en 2018, en fait un petit peu avant. On avait organisé dans le cadre de notre dans la compagnie de danse, on avait organisé un genre de soirée pré-show un peu, et j'ai dit ce serait bien de faire une petite peinture collective. Fait que j'ai sorti mes aquarelles, mes trucs, puis j'avais installé un petit chevalet, puis je me disais que tout le monde pourrait venir apposer un peu un trait, un mouvement quelconque pour pouvoir à la fin faire une petite œuvre collective, un souvenir du moment. Et en parlant avec certains des artistes qui gravitaient autour de nous au niveau de la danse, ils disaient ce serait bien d'aller à un endroit, d'aller créer une fin de semaine et tout. Puis la chose, mes amis qui me connaissent, ils disent, si tu as une idée, ne le dis pas à côté de Saint-Délou, parce que ça va se faire. Là, j'ai pris la balle au bon. J'ai dit, une fin de semaine, création artistique. Alors, autour de ma fête, normalement, j'allais toujours dans un Airbnb. Je me mettais en exil 2-3 jours, sans enfant, sans mari, et je fais des casse-têtes. Je suis une passionnée de casse-têtes. Je m'amène une boîte de casse-têtes, Netflix. Je commande de la bouffe dans la chambre d'hôtel et je fais des casse-têtes, puis j'écoute Netflix, puis je dors.
Ah, ça s'appelle du self-care.
Self-care.
Top niveau.
Puis minimum 2 nuits, parce que une nuit, tu te lèves puis tu t'en vas, fait que ça sert à rien. Alors, c'est minimum 2 nuits, fait que c'est toujours 2-3 nuits que je fais. Et donc, suite à ça, c'était le jour de mon anniversaire, et puis j'avais ce projet-là en tête, puis j'étais devant mon ordinateur. Je me suis dit, Sandy, est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Parce que j'hésitais. Est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Je me suis dit, oui, j'ai envie de le faire. Alors, fais-le. Je dis, OK. Fait que je commençais à écrire le projet, qui était une retraite artistique avec des artistes. J'avais fait ma liste, j'avais fait mon petit plan, à quoi ça ressemblerait, ce serait quoi les ateliers que je voudrais faire et où ça serait. Alors, ça s'est concrétisé, je l'ai écrit en janvier. La retraite a eu lieu en septembre. J'avais invité 4 artistes, une chanteuse, un tambourineur et une personne pour documenter. Donc, on est parti dans un espace qui s'appelle Cabania, en dehors de la ville. C'est un genre de domaine. J'avais loué le domaine au complet. Et il y avait des cabanes dans les arbres. Chaque artiste avait sa propre cabane.
Wow.
Et il y avait un lieu commun où est-ce qu'on allait faire la peinture collective. Il y avait la cuisine commune et tout. Mais il y avait juste nous. Parce que je voulais pas qu'il y ait... je voulais vraiment qu'on rentre dans ce cocon.
Ouais.
Puis c'était une espèce d'endroit avec des ruisseaux, des petits ponts, de la forêt.
Mais incroyable. Mais attends, mais... T'as sorti l'argent de tes poches?
Je leur ai demandé une petite contribution, mais d'accord. Le reste, c'était moi. Parce que c'était important pour moi de le réaliser. J'ai dit, no matter what, ça va se faire.
Tu vas le faire.
Mm. On va le faire. Et puis ça, c'est une des choses qui m'est toujours restée. Si je veux faire quelque chose, je veux pas m'empêcher d'y arriver. Comme je veux vraiment investir
en fait,
le
si
temps.
Si tu vois un obstacle, tu vas te dire comment est-ce que je fais pour surmonter cet obstacle et non pas me dire ah oh, bah il y a un obstacle donc laisse tomber.
Non c'est ça. Je me laisse pas abattre. Fait que si je veux faire quelque chose, je le fais. Peu importe ce qui va arriver, je vais m'ajuster, je vais trouver des solutions puis je le fais. Alors on est parti ce week-end-là puis ça a été vraiment un week-end magique. C'est ce qui a créé certaines des œuvres que tu vois là. Ça c'est notre première œuvre ici.
Vous avez fait,
On est quatre sur l'œuvre.
Alors, vous pouvez pas voir, hein, je suis désolée, mais c'est magnifique. est-ce que je pourrais prendre quelques photos?
Oui, j'ai des photos cool. Des œuvres, je pourrais te donner ça. Donc, la première, c'était basée sur la chanteuse live, elle chantait. Il y avait le tambourineur et la création se faisait. Et le but, c'était de voir comment les gens occupaient l'espace et de voir individuellement, souvent, on a nos barrières qu'on construit intérieurement. Et quand on arrive sur une toile collective et qu'on doit naviguer dans un espace avec d'autres personnes, comment on se comporte? Et c'est intéressant, au début, chaque personne dessinait dans son coin, faisait dans chacun des quatre coins, puis là, ils dessinaient leur truc, puis là, OK, ça va être beau, ça va être ça. Et moi, je suis venue déranger leur espace. Alors, je travaille à la spatule. Je suis venue passer un trait sur ce qu'il venait de faire.
Sacrilège.
Ça. Et puis là, ouf, on sort de sa zone de confort. Qu'est-ce que je fais? Et puis, c'est un peu ce parallèle-là que je veux faire avec la vie. C'est parce que dans la vie, on peut pas tout contrôler. Il y a des moments où est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver qui fait que on va devoir s'adapter. On peut pas tout le temps, OK, ça va être ça, ça va se passer, il va se passer ça, après ça, il va se passer ça. C'est pas comme ça. La vie est pas linéaire. Hein, elle est pleine de pierres, il y a des routes différentes, il y a des fois c'est l'orage, des fois c'est le soleil, des fois c'est la tempête, des fois c'est la neige pour les gens au Québec.
Alors bah nous c'est souvent la neige, on va dire 7 mois sur 12, mais
ouais, okay. C'est ça. Fait que c'est un peu ça, fait que l'activité était vraiment bénéfique pour eux et il y avait d'autres peintures collectives qu'on a faites. On a deux autres œuvres que j'avais mis au sol avec un petit espace entre les deux. C'était Influence, la thématique de l'atelier. Un, c'était de prendre des éléments de l'extérieur de la nature, en discuter ensemble et après ça, voir comment on peut s'inspirer pour les incorporer dans la toile.
Mmh.
Donc, l'influence de l'environnement, l'influence entre les artistes et les influences de nos constructions sociales et tout ça, puis des objets. Fait que c'est tout ça qui a navigué à travers les deux toiles, et ainsi de suite. Fait que c'était tout ce parcours-là, et puis suite à ça, ça a été, puisque c'était un succès, on a continué à faire de la peinture collective devant public. Donc, on a développé cette approche-là. Donc, on arrivait avec une toile blanche devant le public, et on crée en fonction de l'énergie du moment. Et ainsi de suite, ça a commencé à découler. Et puis là, on est devenu vraiment un incontournable pour tout ce qui est peinture collective publique.
Et comment est-ce que c'est devenu week-end et que vous êtes développé en faisant des ateliers dans des écoles, à faire du coaching, de l'accompagnement, de gestion de projet pour les artistes? Comment est-ce que vous avez... comment vous vous êtes organisé, en
fait? Ben, le collectif a toujours été présent, gravitait vraiment parallèlement à mes activités. Et en 2020, quand j'ai fini mon MBA, je me suis dit, bon, je pense que c'est le temps de professionnaliser parce que là, ça commence à grossir et puis il faut qu'on s'organise de manière un peu plus professionnelle. Donc, j'ai décidé d'officialiser l'OBNL, l'organisme, en novembre 2020. Et c'est ça. Donc depuis, j'ai formé mon CA. Là, j'ai des employés qui travaillent à la pige, dépendant des projets. On y va beaucoup plus par projet. Mm. Puis le premier projet qu'on a entamé, c'était le projet Origine, où est-ce que on a jumelé 15 artistes afrodescendants avec 15 jeunes basketteurs afrodescendants. Et le but, c'était de créer des œuvres basées sur le parcours de ces jeunes-là qui venaient d'un peu partout à travers le monde, mais qui s'entraînaient tous dans une église convertie en court de basket à la rive sud de Montréal.
D'accord.
Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est là un peu qu'a commencé tout ce volet de rencontres improbables. Puis aussi tout ce volet de interaction humaine qui était importante pour moi. Alors suite à ça, on a fait un projet de braille qui était jumelé des artistes à deux artistes avec deux personnes aveugles, faire des œuvres avec une accessibilité universelle, donc intégration du braille dans les œuvres.
Mmh. Et je suis curieuse de savoir ce que ces personnes-là, c'est aveugles, malvoyantes, non-voyants, OK. Ce qu'ils en ont retiré, parce que étant donné que c'est de l'art visuel, on parle toujours de peinture.
Peinture, le défi, parce que à travers les projets que je propose, j'essaie toujours de voir comment l'artiste peut sortir de sa zone de confort, parce que pour moi, ce sont là les points de croissance, où est-ce que l'artiste peut aller chercher un niveau supérieur au niveau de sa pratique. Et c'était de voir comment ils peuvent créer des œuvres accessibles, donc des œuvres tactiles. Et ils avaient ce mandat-là de omettre la couleur. Donc, je voulais pas que ce soit des œuvres colorées parce que le but de la couleur était moins pertinent qu'on parle de personnes aveugles, mais le côté tactile était important. Donc, comment on intègre du braille et comment on utilise des matériaux qui vont être tactiles et qui vont amener une expérience sensorielle.
Oui, et qui vont amener une émotion avec le toucher, en fait.
Voilà. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait braille, l'art au-delà du visuel.
Est-ce que donc tu as eu des retours de des personnes aveugles? Qu'est-ce qu'elles en ont pensé?
Ce qu'on a eu comme retour, c'est que un des artistes n'avait jamais touché de la peinture de sa vie. Donc, son expérience au niveau visuel d'œuvres de peinture était inexistante. Donc, ça lui a permis de naviguer, de voir des textures. L'artiste avec qui il avait été jumelé a créé une peinture tactile avec différentes textures. Mmh. Et dans ce cas-là, dans cette création-là, l'artiste a décidé, Alvino, la personne aveugle, a décidé, il voulait avoir de la couleur. Pourquoi? Parce qu'il voyait la couleur lorsqu'il était enfant. Et pour lui, c'est important de l'associer à une couleur spécifique. Donc, il y a eu des couleurs qui ont été incorporées dans cette œuvre-là. Et ça crée une autre type d'expérience. Puis, il arrivait à se retrouver de par la texture quand il revenait sur l'œuvre pour continuer la création. Mmh. Donc, ça a vraiment permis d'avoir des œuvres entièrement accessibles. Les autres retours qu'on a eus, c'est justement dans le processus, c'est que ils ne se sentaient pas à leur place quand ils vont au musée.
Oui,
la seule place où est-ce qu'il y a du braille, c'est dans les ascenseurs et les toilettes.
Oui.
Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent qu'on fait des œuvres accessibles à tous, on se rend compte que c'est pas seulement les personnes qu'on dit on va le faire pour les personnes non voyantes aveugles, mais finalement c'est accessible à tous parce que qui d'entre nous peut aller au musée puis toucher les œuvres?
Personne.
Personne. Donc, en faisant des œuvres tactiles, ça donne une accessibilité universelle, donc pour tout le monde. Mmh. Fait que il y avait cette prise de conscience-là qui a été faite durant ce projet-là.
Mais d'ailleurs, en parlant d'accessibilité à l'art, je suis allée plusieurs fois au musée des Beaux-Arts de Montréal, musée McCord aussi, à Montréal, et je suis choquée à chaque fois de voir que il y a pas de noirs et que les seules personnes noires qui se promènent dans les dédales du musée, c'est les vigiles, tu vois, c'est les gardiens de sécurité.
Sécurité.
Et à chaque fois, je me dis mais ils sont où en fait? Et est-ce que tu as remarqué ça? Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce qu'il y a une méconnaissance? Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce qu'on est juste moins intéressé? Je pense pas qu'on soit moins intéressé parce que quand je vais dans des milieux où on est entre afro-descendants, on est tous là. Et d'ailleurs, il y a un ou deux blancs, tu sais, qui habillent en sarouel et tout. et qui portent des dreadlocks. Désolée, c'est un peu caricatural. Mais c'est pas faux. Mais voilà, donc je me demandais, est-ce que c'est quelque chose aussi que t'as remarqué?
Oui, et puis ça fait partie d'une de nos missions à l'organisme, c'est de rendre... on s'est spécialisé dans la communauté afrodescendante, justement, pour ouvrir cette accessibilité à l'art. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que on ne voit pas beaucoup de personnes afrodescendantes dans les milieux culturels ou personnes noires dans les milieux culturels. Par contre, toute notre historique est basée sur l'art. Donc, la musique, la peinture, la sculpture...
Les histoires, tout
ce qui est l'histoire, les contes, tout ça, ouais, c'est tout basé sur la culture. Mmh. Fait que c'est vraiment paradoxal. C'est comme si on a mis ça de côté, mais je pense qu'il y a aussi le volet plus occidental, aller au musée, c'est une autre culture aussi. Mais nous, on se fait justement en propulsant les artistes afrodescendants, ça vient avec leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs mères qui vont venir les voir dans leur exposition. Fait que ça les imbibe un peu, puis ça transforme les générations au fil du temps à s'exposer un peu plus à l'art. Mmh.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une barrière à l'entrée, je veux dire, est-ce que c'est pas justement le milieu des arts en tant que tel, tu sais, surtout les arts visuels, le fait de se faire exposer dans des galeries ou dans des musées, est-ce que c'est pas un milieu qui est très très fermé où il faut avoir des connexions, puis c'est difficile quand t'es un outsider et encore plus quand t'es une personne non blanche de rentrer dans le milieu artistique, on va dire occidental ici au Québec ou au Canada.
Il y a plusieurs enjeux. Moi, il y en a deux enjeux principaux selon moi. Oui, il y a des barrières systémiques par rapport à l'accessibilité. Il y a souvent un cercle vicieux qui est présent parce que souvent, pour avoir accès pour être reconnu comme artiste, il faut avoir exposé. Pour avoir exposé, il faut avoir exposé. Mais pour exposer, il faut être reconnu comme artiste professionnel. Et pour être reconnu comme artiste professionnel, il faut avoir exposé. Voilà. On est comme en train de tourner. Ouais. Et ça revient un peu à ce que je disais un peu plus tôt, d'outiller les artistes. Donc, comment on fait une démarche artistique? Comment on applique pour les bourses? Parce qu'il y a des programmes de plus en plus qui changent, qui s'ouvrent, que ce soit à la diversité ethnoculturelle, à la diversité capacitaire. Il y a des programmes qui s'ouvrent et de voir comment on peut attirer plus d'artistes de la communauté à appliquer dans ces types de bourses-là. Parce que après avoir reçu une bourse, c'est facile d'en recevoir une deuxième, une troisième, une quatrième. Après ça, s'ouvrir aux maisons de la culture. Après les maisons de la culture, tu peux aller un peu plus élevé dans les te faire prendre en charge par une galerie. Et après ça, ça vient de fil en aiguille. Alors, mais ça part du point où est-ce que il faut être capable de rentrer dans le système. Et pour entrer dans le système, il faut une certaine base.
Il faut savoir comment ça fonctionne.
Exactement.
D'où un week-end.
Ouais. Mm. Et puis aussi, il y a tout, comme un peu, comme je mentionnais un peu, il y a cette construction qu'on a d'être artiste. Est-ce que c'est un métier viable? Les artistes aussi rentrent avec ces constructions mentales, pas tous, mais des fois, on rentre avec ça, comment je vais y arriver, c'est pas possible, tu sais, vivre de mon art, c'est comme une affaire impossible, je vais faire ça, je vais avoir ma job stable, puis je vais faire un petit peu d'art sur le côté, mais mon rêve, c'est devenir artiste, mais oublie de rêver à ça, c'est comme impossible. Fait que là, on essaie de voir comment trouver des stratégies pour au moins initier des projets, où est-ce qu'on incorpore des ressources afrodescendantes. Donc, des artistes au niveau de l'art visuel, vidéastes, photographes, rédacteurs, toutes les gens qui gravitent autour de nos projets sont majoritairement afrodescendants.
Ouais. Et ils peuvent agir donc comme exemple de réussite ou comme mentor même.
Oui, comme mentor, mais aussi de leur donner une expérience de CV. Parce qu'on culmine toujours avec une exposition. Tous nos projets sont documentés, donc on monte un documentaire qui va être diffusé. Donc, tous nos projets amènent à une expérience de CV, une croissance au niveau de la pratique artistique de l'artiste. Fait qu'à la fin, dans son CV, j'ai exposé à la Maison de la culture telle, j'ai exposé au Conseil des arts de Montréal, j'ai exposé là, on a diffusé dans tel festival, tu comprends? Fait que ça permet de s'ouvrir une autre porte d'entrée pour s'ouvrir dans le monde artistique.
Mais comment l'organisme lui-même a réussi à s'ouvrir de telles portes? Tu sais, le Conseil des arts de Montréal, c'est quand même
Ouais.
C'est quand même gros, tu vois, c'est pas la petite, je sais pas moi, genre l'église ou la mosquée du quartier où on dit qu'on va organiser,
dans
tu vois.
Dans une église, là, ouais, on va faire voilà, un centre communautaire du quartier.
Exactement.
Et puis on prend quelques chaises, tout le monde est à sous-sol. Et puis, c'est, je suis persévérante. Je pense que c'est ça. J'ai mon projet de braille, je l'ai monté un an avant, puis j'ai pas lâché la maison de la culture Claude Éveillé. J'ai dit est-ce que j'aimerais exposer. Puis je pense qu'il y a aussi ce volet là aussi que je mentionnais, c'est d'avoir une équipe, une bonne équipe, d'avoir une certaine originalité aussi dans les projets pour attirer l'intérêt, que ce soit des maisons de la culture et ainsi de suite. Et après ça, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, après ça c'est un après l'autre. Et puis là maintenant, presque tous nos projets ont été subventionnés.
Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants à propos de la créativité?
Ben, tu sais, ils baignent dans l'art, hein, avec moi. Hein, je les amène partout dans mes projets. ma fille est toujours près de moi quand je suis en tournage, quand on fait des projets artistiques. Elle est toujours là. Elle a son petit chariot turquoise là avec tout son stock de peinture quand elle vient ici. Mon fils il gravit dans la musique depuis qu'il est bébé. Il compose, il écrit de la musique tous les jours. Il veut lancer son album. Wow. Il est extrêmement talentueux. Il navigue là-dedans à temps plein. Ce que je leur dis, c'est qu'ils ont des super pouvoirs. Puis vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut juste avoir une posture de ce que vous désirez atteindre. Donc, si, par exemple, mon fils, si lui veut être joueur de soccer, il veut faire de la musique, mais je dis, tu veux être joueur de soccer, faut que tu aies la posture d'un joueur de soccer. Ça veut dire l'alimentation, ça veut dire la rigueur, ça veut dire le focus. Quand c'est le moment que ça compte, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois performant. Même chose pour ma fille. T'sais, si tu veux faire telle chose, il faut que tu aies faut que tu investisses le temps nécessaire pour le faire. Faut rester passionné de ce qu'on fait, puis je pense que c'est ça. C'est vraiment la passion que je voulais continuer à leur instaurer, de faire ce qui les passionne et non pas faire des choses par obligation de parce que maman a dit qu'il faut, à part la base, là, on s'entend, faire son lit, faire ses trucs, ça va là, on s'entend. Mais les grands choix de vie là, leur carrière, pour moi c'est important. Comme mon fils est excellent en musique, je vais pas lui dire va étudier en médecine. Puis de toute façon, il peut changer 30 fois de carrière. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis revenue aux études en 2005, après 6 ans d'arrêt, je me questionnais, je me cherchais, et finalement, c'est au doctorat que je sais ce que je veux faire. Mmh. Et que c'est un parcours.
Et t'avais quel âge à ce moment-là? Parce que ça, je pense que c'est important de le mentionner. Quand t'as découvert ce que tu voulais, quand tu t'es dit, OK, c'est ça que je veux faire, en fait.
J'avais 43 ans.
Voilà.
43 ans, 44 ans. C'est ça. Maintenant, là. Maintenant.
La question derrière, t'avais quel âge, c'est surtout pour montrer que ça prend du temps et qu'en fait c'est OK.
Oui, puis c'est correct, exactement. C'est correct. Puis c'est un périple, c'est un parcours, hein.
On arrive à la fin. Est-ce que tu as une recommandation de livre pour moi?
Ah, mon Dieu, ouf! De ce temps-ci, c'est tellement drôle parce que je suis dans les livres d'école. Je suis dans les livres liés à ma recherche. Recommandation de livre. J'ai un livre que je suis en train de... j'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être intéressant. C'est Black Madness. Mad Blackness. Je pense que c'est ça le titre. C'est une professeure aux États-Unis qui a écrit ce livre-là, qui se spécialise dans tout ce qui est disability et la communauté noire. Fait que j'ai comme lu en diagonale un peu le synopsis puis sa bio et puis un peu le sujet, mais c'est ça, fait que je suis en train d'explorer ça, fait que je suggère un livre, on pourra s'en reparler par la suite.
De quoi seras-tu nostalgique d'ici quelques années?
Ouf, c'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que c'est souvent les premiers moments qu'on vit, le début de quelque chose. Je pense que c'est surtout ça. Le début du commencement de week-end, le début du commencement de mon doctorat, le début du commencement de mon fils au soccer, le début, les débuts.
Mmh. Même les débuts de la maternité?
Oui, c'est effectivement. Le petit bébé, quand tu le tenais dans tes mains, puis il bougeait pas, puis tu lui donnais le lait maternel, et puis, ouais. Là, ils sont grands, j'ai plus de bébé, mais c'est correct aussi. Là, je suis à l'étape que je peux garder, et puis je redonne l'enfant. Après ça, on s'en va, il n'y a pas de problème. Fait que, ouais, c'est ça.
Le podcast s'appelle La Zone, en référence à la sortie de sa zone de confort et à l'entrée dans sa zone de génie. Alors toi, Sandy Lou, qu'est-ce que tu as laissé dans ta zone de confort et qu'est-ce que tu as trouvé dans ta zone de génie?
Ma zone de confort, c'est ce que j'ai laissé dans ma zone de confort. C'est surtout tout ce qui est, je dirais, la créativité. Ma zone de confort, c'est où est-ce que je suis créative, là. C'est vraiment là où est-ce que... Je me sens dans ma zone, là. Je suis bien, je me sens à l'aise de prendre une idée puis de la faire fleurir. Là, je suis dans ma zone de confort. Dans ma zone de génie, c'est la résolution de problèmes.
Donc, c'est tu vraiment... penses que t'es plus forte en gestion de crise qu'en créativité, finalement.
Ah oui, non, c'est ce que j'ai vraiment découvert au fil des années, mais ça fait ces dernières années que j'ai découvert ça. Puis c'est mon copain qui me regardait faire des casse-têtes, et puis il me disait, t'as pas vu comment tu fais des casse-têtes? Puis il me disait, tu places des morceaux là, comme ça, là. Poup, 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 poup. Puis dès qu'il y a une problématique, là, je deviens comme, OK, voici la solution. J'arrive à conceptualiser la situation, la solution tout de suite. Puis je suis capable de tac 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 tac, tout s'organise un peu comme la Matrix là. Je lis là, c'est comme si le code là, il est clair là, je le vois, toute la codification, elle est comme, c'est comme si c'est moi qui l'avais écrit. Mais ouais, c'est vraiment là que je me rends. Mais ça, j'ai découvert ça très tard. Mm. Tu sais, on pense savoir où on se situe, mais c'est avec le temps puis aussi le feedback des gens qui nous voient aussi. Je pense à les interactions qu'on a avec les gens nous permet aussi de mieux nous situer.
Merci beaucoup, Sandy Lou.
Ça fait plaisir. Merci à toi.
Merci à mon invité d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Retrouvez toutes les références de notre discussion en barre de description. Si vous aimez le podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous. À votre famille, à vos amis et même à votre voisine un peu chelou. On peut aussi s'en parler par mail ou sur Instagram à La Zone Podcast. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires, de nouveaux éclats de rire et des nouveaux podcasts.